le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marsili.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
Et bonjour à tous nos auditeurs en ces ides de mars, période toujours propice aux tensions et dont on ne se méfie jamais assez. Ce cher Jules César en sait quelque chose.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, nous reviendrons tout d'abord sur le rapport annuel de la Cour des comptes, alarmant à propos de l'état structurel des finances publiques françaises.
Puis nous évoquerons l'amitié franco-britannique, semble-t-il largement retrouvée, à la suite du premier sommet entre les deux pays depuis 5 ans, qui s'est tenu la semaine dernière.
Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine, qui nous amèneront à parler d'un écrivain auvergnat et chroniqueur de génie, Alexandre Vialat, et de l'assassinat de l'ancien président du Conseil italien, Aldo Moro, à travers la série Esterno Notte sur Arte.
Jérémy, c'est un moment toujours important chaque année, solennel, mais finalement assez vite oublié dans le flot d'actualité. Je parle du rapport de la Cour des comptes, présenté par son premier président, Pierre Moscovici. Et cette année encore, plus que les précédentes, ce rapport est alarmiste. Nos finances publiques sont parmi les plus dégradées d'Europe, situation qui n'est pas durable et qui empêche d'affronter des grands défis énergétiques, technologiques, sanitaires. La Cour des comptes est très claire à ce sujet. Elle se fonde sur énormément de chiffres, d'études, de recommandations. Et pourtant, tout le monde s'en moque plus ou moins. La Cour des comptes, quel que soit son premier président par ailleurs, semble un peu prêcher dans le désert. Et c'est un peu ce dont nous voulions parler ensemble aujourd'hui. Pourquoi ce désintérêt relatif et comment l'expliquer?
C'est un sujet qui peut paraître peut-être aride pour certains de nos auditeurs, en tout cas qui semble l'être pour beaucoup de nos médias, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a une forme de dichotomie entre d'un côté l'importance du sujet et ce que ça représente pour l'avenir du pays, et je pense qu'on va revenir dessus, et en même temps le fait que c'est passé un petit peu comme une lettre à la poste, comme un événement parmi d'autres au cours de la semaine passée, alors que les chiffres, et je vais quand même revenir dessus, sont alarmants. On parle quand même aujourd'hui d'une dette publique qui va dépasser 111% du PIB à la fin de l'année, c'est-à-dire 14 points au-dessus de ce que c'était avant la crise. Alors, si on remonte aussi et si on compare par rapport aux autres pays européens, il faut savoir que depuis l'entrée dans l'euro en 2000, l'Allemagne a vu sa dette publique se dégrader de 10 points, l'Italie de 40 points, la France de 55 points. Donc, c'est considérable. On a un déficit annuel qui est extrêmement élevé. Et puis, on a aussi, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que d'un côté, on a une dette publique extrêmement élevée, mais on a aussi des dépenses publiques qui sont très élevées, qui sont à 58% du PIB, qui sont quasiment les dépenses publiques aujourd'hui les plus élevées de la zone euro. Et une amie me disait récemment qu'elle avait lu un article, alors tu m'excuseras parce que je sais ton attachement au Mexique, mais qui justement revenait sur la description de la situation des finances publiques en France. Et le titre, que je trouve bien trouvé, était « Les prélèvements obligatoires du Danemark, le taux de satisfaction du Mexique ». Et quelque part, je crois que ça dit quand même beaucoup de la situation en France, c'est-à-dire une situation des finances publiques toujours plus dégradée, des dépenses publiques toujours plus élevées, et quelque part, si je dois reprendre le slogan d'une leader des Gilets jaunes, où va l'argent? On se demande quand même, avec ce niveau de dépenses publiques, on a des services publics qui aujourd'hui clairement n'apportent pas satisfaction à nos concitoyens. D'ailleurs, Pierre Moscovici le souligne, je crois, quand il remet son rapport cette semaine. Et donc, c'est un peu de tout cela dont on voulait parler aujourd'hui.
Oui, la situation, comme tu l'as rappelé, n'est guère réjouissante. Et puis, il y a d'autres indicateurs qui ne vont pas dans le bon sens. Le déficit commercial, une industrie dont le poids dans le PIB ne cesse de diminuer. Et puis, un taux de chômage qui, s'il s'est vraiment amélioré ces dernières années, il faut le dire, reste tout de même supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Alors, la question quand même qu'on peut se poser, une fois qu'on a dit tout ça, c'est un peu, si je devais être un peu abrupt à mon tour, c'est pourquoi tout le monde s'en fout? La classe politique, les médias, probablement une partie des citoyens. Et ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, parce que la question des finances publiques, clairement, elle n'est pas que technique. Ce n'est pas un plaisir de comptable discuter de finances publiques. Il y a quand même plus sympa à discuter dans la vie. C'est, si on parle de finances publiques, pourquoi c'est un problème? Parce que ce n'est pas durable. Parce que même si la France aujourd'hui bénéficie de la bienveillance et du respect des marchés financiers, cela ne peut pas durer éternellement. Et puis, c'est un enjeu de souveraineté. Parce que cela nous empêche d'être, on va dire, ambitieux, offensif sur des enjeux gigantesques, au-delà des missions régaliennes, d'éducation, de lutte contre l'insécurité, etc. Mais pour demain, le changement climatique, la réindustrialisation, Donc c'est un véritable problème. Mais cela passe finalement assez inaperçu. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs types de raisons. Alors déjà, il y a un déni étatiste qui est assez présent dans les élites qui nous gouvernent, dans la haute fonction publique. C'était la phrase du président Hollande qui résume ça magnifiquement. C'est gratuit, c'est l'État qui paye. Donc en gros, ce n'est pas si important que ça. Et puis si tu prends la même expression encore plus à gauche, c'est il y a de l'argent, il suffit de savoir où le chercher et le taxer. Donc, en gros, nous sommes dans un milieu, dans un contexte de ressources quasi inépuisables. Donc ça, c'est le premier déni. Après, il y a un autre déni, qui est le déni optimiste. Alors là, c'est un peu une réponse à ce que tu viens de dire, ce petit tacle sur le Mexique. Mais ce déni optimiste, ce serait la jurisprudence Sylvain Tesson. Il a eu cette phrase, bon, j'aime beaucoup, je pense qu'on apprécie beaucoup Sylvain Tesson, mais il a eu cette phrase qui, à mon avis, est un peu malheureuse dans le sens où elle donne un alibi à tous les immobilismes. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Donc là, c'est, bon, en fait, écoutez, les choses vont pas si mal que ça, il y a bien pire ailleurs, regardez. Et puis, l'autre versant du déni optimiste, c'est on a 10 licornes par an, c'est extraordinaire, regardez, le pays va bien, c'est une renaissance française, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc je pense que c'est deux versants là qui existent. Et puis, dernier point quand même, alors là je me place du point de vue un peu davantage de l'opinion, il y a peut-être aussi une lassitude vis-à-vis de ce catastrophisme. Souviens-toi, c'était il y a 20 ans, c'était en 2003, ce livre qui avait fait un peu scandale, c'est de Nicolas Bavrez, La France qui tombe. Tout le monde avait dit, c'est décliniste, c'est terrible, c'est trop sombre. Et puis depuis, on entend souvent, mais nous sommes en 1788, ça va bientôt péter. Enfin, c'est des choses qu'on entend quand même très régulièrement. Et en fait, non, ça ne pète pas, il n'y a pas eu de 1789. Et donc peut-être que, à force d'entendre ces discours très alarmistes, il y a une perte d'attention de la part d'une partie de l'opinion. C'est toute cette sphère-là qui peut peut-être expliquer ce relatif je m'en foutisme, avec, mais ça on l'évoque souvent, un problème plus global de notre classe politique et de nos élites avec le long terme.
Je pense que tu as très bien résumé la situation. Moi, ce qui me frappe, c'est aussi la difficulté à la fois de nos élites politiques et médiatiques de faire le lien entre la situation des finances publiques, quelque chose qui peut paraître assez abstrait, et son impact sur la vie politique et future de notre pays. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste le plaisir de s'alarmer sur des chiffres. C'est finalement, en fait, l'avenir de notre pays qu'on est en train de jeter à la poubelle. Enfin, il faut le dire très clairement. C'est-à-dire que quand tu as le niveau d'endettement de la France aujourd'hui, ça veut dire que tu t'empêches et tu t'enlèves toute marge de manœuvre pour investir, par exemple, dans l'éducation, qui devrait être le chantier absolument prioritaire aujourd'hui dans une puissance moyenne comme la France. Aujourd'hui, notre seule manière d'exister dans le monde de demain, ça devrait être d'investir plus que jamais dans l'éducation à tous les niveaux. Or, aujourd'hui, on n'en a pas du tout la marge de manœuvre budgétaire. On a des services publics qui sont en plongeon complet, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, simplement sur les missions régaliennes de l'État. Et donc, on n'est ni capable aujourd'hui de donner un niveau de service et de prestations que les Français seraient quand même en mesure d'attendre, étant donné le niveau de prélèvement obligatoire qui est le leur dans le pays, mais en même temps, on est incapable de bâtir le futur du pays. Et donc, on a une navigation à vue, à très court terme. Et alors là, il faut être honnête, aussi bien les gouvernements de droite que de gauche. Au cours des dernières décennies, quelqu'un comme Jacques Chirac n'a absolument rien fait pour contrer cela. Enfin, au contraire, il était dans cette idée que ça avait tenu déjà quand il était au pouvoir au cours des 2-3 décennies précédentes et que ça allait bien tenir un peu plus. Bon, Téhéran, tous ont été dans le même logiciel. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité générale de la classe politique, mais aussi de nos médias qui ne sont pas du tout capables d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire sur, derrière, la capacité du pays à investir dans son futur. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, bon, il faut quand même réfléchir à comment on fait pour essayer quand même d'améliorer la situation, parce que sinon, on baisse les bras et on abandonne le navire. Il y a, à mon avis, 3 leviers pour réduire les déficits. Enfin, c'est pas à mon avis d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire. Le premier, c'est considérer que ça va venir de la croissance, de la capacité du pays à retrouver un niveau de croissance élevé. La Banque de France, je crois, dans son analyse assez optimiste, prévoit un taux de croissance de 0,1% au premier trimestre 2023. Tout est dit. Enfin, voilà, on sait très bien qu'en France, on aura une croissance modérée au cours des prochaines années. Je te signale quand même que depuis qu'on est né en 85, moi, j'ai jamais connu une croissance forte en France. Enfin, il faut quand même être lucide là-dessus.
L'année post-Covid.
L'année post-Covid.
Voilà, pour des raisons évidentes, mais c'est tout.
Voilà. Deuxièmement, on augmente les impôts. Là, je dois dire que moi, je considère que le gouvernement français, depuis 2017, et le président Macron ont eu raison sur clairement une chose, c'est de faire en sorte quand même d'éviter les hausses d'impôts et d'envoyer un signal général, que ce soit aux entreprises, aux investisseurs, qu'il y avait une sorte de stabilité fiscale et qu'on baissait le niveau de charge. Ça me paraît le minimum, et je trouve que dans un pays où il y a 58% de taux de prélèvement obligatoire, ça me paraît très difficile aujourd'hui d'augmenter les impôts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer parfois la base fiscale, et notamment faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de Français qui paient des impôts et que l'effort fiscal ne soit pas concentré sur une minorité de Français qui paient toujours plus d'impôts pour l'ensemble de la société. Donc il y a probablement des réformes à faire de ce côté-là. Il y a probablement aussi des efforts en termes de collecte fiscale, avoir des impôts plus efficaces. Mais en revanche, augmenter les impôts, moi je trouve que c'est assez aberrant. Et puis troisièmement, il y a effectivement la question de la maîtrise des dépenses. Alors, ce qui est quand même, ce qui rend assez pessimiste, c'est que, comme tu l'as dit, ce n'est pas une question nouvelle. Et on a eu toute une série de grandes initiatives annoncées à coups de trompette et de fanfare au cours des dernières décennies, où on a dit on va se lancer dans la réforme des dépenses publiques. On se souvient de la RGPP à l'époque de Sarkozy-Fillon, qui a finalement accouché d'une souris. On se souvient quand même qu'en 2017, le président de la République avait annoncé Cap 22. Bon, pareil, ça n'a pas abouti à grand-chose. Alors tu me diras, il y a eu des crises entre-temps, etc. Certes, mais il y a quand même une question, et je pense que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, souligne quand même cette question lorsqu'il a remis le rapport, c'est quand même la question des dépenses publiques au niveau des différentes strates, c'est-à-dire au niveau de l'État, mais aussi au niveau des collectivités locales. Et là, il faut être quand même assez honnête. En termes de décentralisation, ce que l'on a fait au cours des dernières décennies, c'est qu'on n'a pas vraiment décentralisé. On reste dans un État incroyablement central, où on a en revanche multiplié les strates, sans jamais en supprimer, au niveau local, et on a un État qui souvent dédouble les collectivités locales, ou bien leur donne des tâches, mais leur donne pas les moyens de les accomplir. Et donc je pense que là-dessus, il y a quand même toute une réforme majeure de l'État à mener.
C'est un des points les plus intéressants du rapport, outre les chiffres souvent sombres et négatifs qui ne cessent de s'aggraver, c'est justement, comme tu l'as dit, sur la décentralisation. Alors là, il y a aussi un populisme jacobin, parfois, qui dit, regardez cette gabegie d'argent jeté par les collectivités locales. Alors ça, c'est un peu facile. Les chiffres, quand même, montrent qu'en moyenne, en France, si on prend la moyenne de la zone euro, les dépenses locales représentent moins. C'est-à-dire on est à 11% en France, on est à 18%. Cependant, la comparaison est difficile puisqu'on compare un État assez centralisé comme la France avec des pays qui ont presque un fonctionnement fédéral comme l'Allemagne ou bien des pays très décentralisés comme l'Italie ou l'Espagne. Donc la comparaison n'est pas très honnête. Ceci dit, ce que souligne le rapport et ce que tu viens de dire aussi, c'est le problème de la construction, l'architecture de la décentralisation. On a cessé de créer de nouvelles strates, des régions qui se sont, avec des pouvoirs plus forts, qui se sont ajoutés aux départements, les intercommunalités devenues obligatoires, qui se sont ajoutées aux communes, avec une distinction des missions peu claire, avec toujours plus d'administration, et puis on connaît bien évidemment le cercle vicieux, des nouvelles prérogatives, donc on va davantage embaucher, mais finalement, les prérogatives ne sont pas uniques, et puis, rajoute à ça un tout petit peu de clientélisme, ça te fait une situation de gaspillage total en frais de structure. Et puis, à côté de ça, c'est sur l'aspect dépenses, tu as l'aspect dans l'autre colonne revenus, et là, bien sûr qu'on ne peut que se satisfaire de la baisse globale, légère, hein, mais baisse globale d'impôts et de stabilisation de la fiscalité depuis 2017. Mais ça s'est fait aussi, et ça c'est très dangereux, aux dépens des collectivités locales, et notamment des mairies. Lorsque la taxe d'habitation est supprimée, bien sûr, personne ne va la pleurer, cette taxe-là. Sauf que, fondamentalement, c'est une ressource en moins pour les collectivités locales, et en l'occurrence pour les mairies. Et donc là, c'est presque une atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, qui n'ont aujourd'hui quasiment plus aucune marge de manœuvre. Donc, je crois qu'en fait, on assiste à un processus de recentralisation, fondamentalement, malgré des discours qui disent, comme souvent, totalement l'inverse. Et là, la Cour des comptes et Pierre Moscovici touchent du doigt quelque chose de fondamental, et c'est peut-être aussi pour ça que l'exécutif, il faut rester prudent, ce n'est que le début et les intentions paraissent encore peu claires, a comme prochain gros projet, une fois la réforme des retraites passée, une fois la question de l'immigration plus ou moins réglée, il y aura cette volonté de s'attaquer aux institutions et notamment à une nouvelle étape de décentralisation. Mais là, les mois prochains, nous donnerons quelques réponses.
Alors, Nous parlons d'endettement. Une entreprise qui vient d'être renationalisée et qui a eu un endettement record en 2022, c'est EDF. 17,9 milliards d'euros de pertes. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons de ce désastre politique, mais c'est quand même aujourd'hui une entreprise qui a un niveau d'endettement de 64,5 milliards d'euros. Et alors, tu admireras mon art de la transition. EDF, c'est une entreprise qui a des projets dans le nucléaire au Royaume-Uni. Et notamment des projets d'EPR à Hinkley Point. Or, la semaine dernière, c'était un moment de rétablissement des relations franco-britanniques avec un sommet à Paris et la visite du Premier ministre Rishi Sunak, qui, dans une sorte de nouvelle bromance, comme le président Macron nous y a habitués, a mené une visite, alors dirais-tu, fructueuse à Paris.
On parlait la semaine dernière des relations tendues de la France avec certains pays africains et globalement, parfois, de manière un peu taquine, on dit que depuis quelques années, on se brouille à un moment donné plus ou moins avec tout le monde. Bon, alors là, il y avait un pays avec lequel c'était particulièrement problématique, et je dis pas ça uniquement parce que tu es proche du Royaume-Uni, je dis ça parce que c'est quand même un pays dont les valeurs nous sont proches, nous sont chères. Donc, on avait vraiment un souci avec le Royaume-Uni. Il n'y avait pas eu de sommet de ce type bilatéral depuis 5 ans, ce qui est quand même extrêmement long. À l'époque, c'était Theresa May. On a l'impression qu'on parle d'il y a vraiment une éternité, tellement il s'est passé de choses dans la vie politique britannique depuis. Et puis, dans quelques jours, le nouveau roi, Charles III, effectuera sa première visite à l'étranger en France. Alors là, on est dans l'ordre du symbolique. Bien sûr, il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais ça contribue au fait de montrer que les relations entre ces deux pays qui sont si fortes, on ne va pas rappeler l'entente cordiale qui a plus d'un siècle, que les relations entre ces deux pays s'améliorent. Non, la question qu'on peut quand même se poser, c'est comment on a pu tomber si bas entre deux pays si proches.
Oui, alors je t'avouerai qu'il est d'autant plus facile de se rapprocher du Royaume-Uni et de nos amis anglais quand on les bat 53-10 à Twickenham, comme on l'a fait de manière brillante ce week-end. Non, plus sérieusement, je pense que ce qui me frappe, en fait, plus je m'intéresse, et puis de part, évidemment, mon lien personnel avec le Royaume-Uni à ce pays, plus ce qui me frappe, c'est en fait les similitudes entre la France et le Royaume-Uni. C'est-à-dire ces deux pays qui ont été des grandes puissances, qui vivent quand même un peu dans la nostalgie de ces grandes puissances, qui sont au fond d'elles-mêmes assez lucides. Elles savent qu'elles ne le sont plus, mais elles veulent vivre un peu dans cette illusion. C'est des pays qui sont rongés par un profond sentiment de déclin, qui, dans le pire des cas, se traduisent dans une forme de rabougrissement, de refermement sur elles-mêmes. C'est le Brexit au Royaume-Uni, et nous, c'est la montée des extrêmes, à gauche, à droite, une incapacité à se réformer, à avancer sur certaines questions. Et en même temps, c'est des pays qui ont, et ça, il faut le dire, et moi, ça me frappe toujours au niveau européen, qui ont quand même encore une vision globale, qui sont capables de se projeter. On parlait dans l'épisode la semaine dernière de la diplomatie française en Afrique, qui ont quand même une volonté de s'intéresser aux affaires du monde, etc. Ce qui est quand même, de manière très frappante, un contraste très fort avec la plupart des pays aujourd'hui de l'Union européenne. Et donc, c'est des pays qui ont continué à investir dans leur effort de défense. Donc, c'est des pays qui ont, je trouve, au-delà de nos inimitiés historiques et des différences de caractère, qui ont quand même quelque chose de très fort qui les lie. Et puis évidemment, une histoire aussi qui fait que ces deux pays sont intimement liés, mais c'est pas simplement sur l'histoire politique, c'est aussi sur le plan culturel, littéraire, etc. etc. Et donc, la visite de Rishi Sunak, finalement, c'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire qu'il est normal qu'un Premier ministre britannique vienne en France, essaie de bâtir des liens et de recréer des ponts avec son voisin français. Alors, on pourrait évoquer certains des sujets. C'est vrai que, côté français, l'accent a été mis sur la question de la sécurité et de la défense. C'était la guerre en Ukraine a bien montré que s'il y a quand même un partenaire avec lequel on peut travailler sur les questions de politique étrangère et de défense au niveau européen, c'est le Royaume-Uni. Et donc, il y avait le traité de Lancaster House en 2010 à réactiver. Ça, c'était une des ambitions côté français. Côté britannique, la volonté, c'était notamment, par rapport à l'électorat conservateur de Rishi Sunak, obtenir des gages en matière de gestion des flux migratoires. Et donc, notamment, parce que le deuxième sujet aujourd'hui qui préoccupe le plus les Britanniques, c'est les traversées illégales de migrants, notamment via la Manche, qui arrivent au Royaume-Uni. Alors, c'est d'autant plus important qu'une des promesses du Brexit, c'était un peu de « on regagne le contrôle de nos frontières ». Et en fait, ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Alors, moi là-dessus, je trouve que c'est une question intéressante parce que D'abord, je trouve qu'il ne faut pas du tout faire preuve de, d'arrogance par rapport aux Britanniques là-dessus. Les Britanniques, bon, ils n'arrivent pas à contrôler leurs frontières. Ils ont 46 000 traversées de la Manche illégales. Mais nous, au niveau de l'Union européenne, on est aussi incapables de contrôler nos frontières. On est à des niveaux records de traversées illégales depuis 2016. Et finalement, ce que je trouve aussi assez ironique, c'est que nous, Français, de manière assez hypocrite, on a pendant longtemps délégué la gestion des questions migratoires aux pays qui étaient en première ligne, notamment l'Italie pour nous. Et on disait, bah, vous les gardez. Et tant qu'ils ne traversent pas la frontière franco-italienne, ça nous va. Aujourd'hui, par rapport aux Britanniques, on se retrouve en fait dans la situation inverse, où c'est nous qui devons bloquer. Et évidemment, on dit aux Britanniques, c'est scandaleux, vous devriez les accepter, mais finalement, les Britanniques ne font à notre égard que nous ce que l'on fait par rapport aux Italiens. Et donc, il y avait la volonté de travailler ensemble là-dessus. Alors, il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment sur des moyens supplémentaires qui vont être débloqués par les Britanniques et les Français pour gérer ces flux migratoires. Je tiens quand même d'ailleurs à souligner qu'au-delà des tensions politiques, sur le terrain, nos policiers, nos forces de l'ordre françaises et britanniques travaillent souvent main dans la main sur ces sujets-là. C'est comme souvent en politique, les dirigeants sont dans des effets rhétoriques, mais sur le terrain, les forces de l'ordre, avec des moyens malheureusement trop limités, font leur maximum. Cependant, je trouve que ça rappelle quand même la nécessité sur ces questions migratoires. Il n'y a pas de solution facile, mais c'est de toute façon que la seule manière de régler ces questions, c'est de travailler main dans la main. C'est-à-dire que de la même manière qu'au niveau européen et de l'Union européenne, on pourra régler la question migratoire qu'en ayant une politique européenne sur ces questions dignes de ce nom, ce qui n'est malheureusement toujours pas le cas. Au niveau entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est simplement si on travaille ensemble qu'on arrivera à gérer ces flux migratoires.
Ukraine, immigration, énergie, tu l'as aussi mentionné, on voit bien tous les sujets importants qui nous rassemblent. Et il y a aussi la question personnelle. Alors, bien sûr, tu l'as dit, les élites politiques font des effets de manche, ça n'empêche pas les personnes de travailler sur le terrain. Mais tout de même, sans rentrer dans l'intimité des relations qu'il peut avoir entre les principaux dirigeants que par définition nous ne connaissons pas, ou alors que l'on connaît souvent un peu après, ça compte. On évoquait lors d'un dernier épisode des relations entre Nixon et De Gaulle, par exemple. C'est des choses qui, à un moment donné, peuvent cristalliser dans le bon sens ou dans un mauvais sens. Là, on a l'impression qu'entre le président de la République français et le Premier ministre anglais, il y a pour la première fois depuis quelques années un alignement des personnalités. Alors, au-delà du fait qu'ils ont des traits de caractère commun, qu'ils ont exercé la même profession de banquier d'affaires, qu'ils ont plus ou moins le même âge, on a des profils plus proches et ça peut beaucoup aider dans une période, on va dire, qui amorce une nouvelle détente, surtout maintenant que le dernier dossier vraiment épineux dans le divorce, qui était la question irlandaise, est plus ou moins réglé.
Tu me connais, je suis un réaliste en politique étrangère, donc je crois que d'abord la relation entre les pays est d'abord liée au rapport de puissance, mais effectivement, comme Nixon, je pense que en plus de ces rapports de puissance, vient s'ajouter, ils sont essentiels, les rapports de personnes. Et donc, les rapports de personnes ne suffisent pas. Et c'est, à mon avis, l'échec de notre diplomatie, par exemple, au moment des années Trump. C'est pas parce que Emmanuel Macron pouvait entretenir une relation personnelle avec Donald Trump qu'il allait le convaincre de certains changements de politique. On l'a vu également avec la Russie de Poutine. En revanche, quand il y a un alignement sur le fond des politiques, ensuite, les relations personnelles peuvent effectivement aider à fluidifier certaines relations. Et c'est exactement ce qu'on voit et que tu as décrit aujourd'hui avec Rishi Sunak, qui est quelqu'un qui a un lien fort avec le président de la République, mais qui a aussi un lien fort avec probablement le seul poids lourd de notre gouvernement actuel, Bruno Le Maire, puisque Bruno Le Maire l'a connu lorsque Rishi Sunak était chancelier de l'échiquier. Et la relation entre les deux hommes est aussi réputée être assez forte. Alors, ensuite, en termes de politique, ce qui est aussi apprécié, je pense, côté français, c'est que Sunak, contrairement notamment alors à Liz Truss, mais aussi à Boris Johnson, est vu comme un pragmatique. C'est-à-dire que, et tu mentionnais la question irlandaise, le cadre de Windsor est le symbole même de cela. C'est-à-dire que par une maîtrise de fond du dossier, ce que déjà ses deux prédécesseurs n'avaient pas, mais aussi une capacité à développer certaines concessions et à comprendre aussi les préoccupations de l'Union européenne, eh bien finalement, Sunak est arrivé à trouver un accord sur le protocole nord-irlandais qui était un sujet de friction avec les Européens depuis finalement le Brexit. Et d'ailleurs, la presse britannique ne s'y est pas trompée puisque, reprenant de manière ironique un des thèmes de campagne de Boris Johnson en son temps, « Get Brexit Done », et ben en fait, elle a souligné que celui qui est peut-être en train d'avoir « Get Brexit Done », c'est Sunak. Et je pense que ce pragmatisme est quelque chose qui est apprécié de la part de nos dirigeants.
Bien sûr, il ne faut pas trop s'y attacher, puisque peut-être que dans un an, il va y avoir une alternance politique.
Alors, mon cher Romain, juste avant de clore la page du Royaume-Uni, je crois que tu as vu quelque chose qui a fait la une de tous les médias au Royaume-Uni cette semaine. C'est ce tweet qui a été fait par Gary Lineker. Alors, Gary Lineker, pour le recontextualiser, c'est un présentateur vedette de football au Royaume-Uni, mais qui est surtout l'ancien capitaine de la sélection britannique, et qui a, à propos du projet de loi qui vise à empêcher les migrants d'arriver par la Manche qui est proposé par le gouvernement britannique, qui a tweeté, je le cite, « une politique cruelle à destination des plus vulnérables dans un langage qui n'est pas dissimilaire à celui utilisé par l'Allemagne dans les années 1930 ». Et alors, ça a fait une polémique colossale au Royaume-Uni parce qu'en fait, la BBC a écarté Gary Lineker de l'antenne, ce qui était une décision plus que maladroite et probablement, et surtout quand on connaît combien cette institution est aujourd'hui au centre de multiples controverses. Mais je crois que cette anecdote t'a intéressé.
Elle est vraiment intéressante, parce que surtout si tu compares avec la situation des services publics audiovisuels en France. Donc tu l'as rappelé, donc Gary Lineker, c'est un ancien footballeur, c'est un présentateur vedette, mais c'est aussi un type qui a toujours été réputé pour son esprit. C'est très d'humour. D'ailleurs, il y en a un qui est maintenant devenu une tarte à la crème, une de ses citations il y a plus de 30 ans. Il avait dit « Le football est un sport qui se joue 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ». C'est un aphorisme très malin et qui est ressorti à toutes les sauces, modifié, transformé. Bon, ça fait longtemps que l'Allemagne ne gagne plus en foot, mais en tout cas, ça ressort. Et c'est une personnalité très populaire. Il a une émission « Match of the Day » qui est vraiment une institution dans le paysage audiovisuel britannique. C'est en gros le résumé des matchs, avec aussi des interviews des différents joueurs après chaque journée de Première Ligue. Et donc, il a pris position sur un sujet qui n'a rien à voir avec le foot. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'il a dit. Bon, moi, je trouve que c'est un peu stupide de faire des comparaisons toujours avec l'Allemagne des années 30. C'est même totalement idiot. Mais peu importe, il a exprimé ce sentiment et il se fait en quelque sorte lourder, suspendre. Et là, quand tu compares avec la France, tu te dis, mais si en France, chaque humoriste, commentateur, journaliste du service public, que ce soit radio ou télé, qui s'en prend de manière ou d'une autre au gouvernement, quel que soit le gouvernement, par ailleurs, devait être suspendu, on s'en sortirait pas. Il y aurait plus forcément grand monde. Et au Royaume-Uni, à la BBC, ça choque, parce qu'il y a une tradition. Est-ce que cette tradition est encore tenable aujourd'hui? Mais il y avait une tradition d'impartialité et d'équilibre dans toutes les prises de parole des journalistes, des membres, des dirigeants de la BBC. Parce que la BBC est pensé, conçu, et je pense que c'est une très bonne conception, comme un organisme, un média, un groupe de médias, qui est là pour rassembler les Britanniques et pas pour les diviser politiquement. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'infos sur la BBC. Il y en a, et elle est souvent d'ailleurs de très grande qualité, c'est une référence mondiale, mais on évite de tomber dans les écueils partisans. Et un présentateur, en l'occurrence Lineker, rentre là-dessus, ça fait un tollé, mais ça fait un tollé chez les dirigeants, mais ça fait aussi c'est aussi sa suspension. Et c'est même surtout sa suspension qui crée un tollé. Et d'ailleurs, les joueurs de foot, ce week-end, par solidarité envers lui, les clubs ont refusé l'émission. On parlait des points communs entre la France et le Royaume-Uni. Là, je trouve que c'est deux situations très différentes qui peuvent donner lieu à quelques sourires.
Alors, je partage d'abord l'hommage que tu as rendu à la BBC, qui je trouve est une institution extraordinaire malgré toutes les difficultés qu'elle traverse aujourd'hui et qui est un outil du soft power britannique absolument remarquable. Ça demeure quand même un des trésors que le Royaume-Uni porte. Mais il y a une autre chose, moi, qui m'a frappé, et je partage ton analyse sur les points que tu as mentionnés, mais autre chose qui m'a frappé, c'est quand même combien ce sujet a fait la une de tous les médias britanniques. Et depuis, grosso modo, quelques jours, les Britanniques ne parlent que de cela. Et moi, je trouve que ça montre quand même d'abord, ça rappelle une fois encore la puissance incroyable du football dans les médias, dans l'imaginaire collectif. Mais je trouve que ça soulève quand même une question. je trouve, de hiérarchisation de l'information dans les médias. Parce qu'au même moment, tu avais quelque chose, et c'est Katie qui soulevait ce point, et je trouve qu'elle avait raison, tu avais cette banque aux États-Unis de la Silicon Valley, SVB, qui faisait faillite, et sur laquelle est adossée énormément de boîtes de la tech britannique. Et le gouvernement britannique a d'ailleurs reconnu que la tech britannique est menacée d'un point de vue quasi existentiel par cette faillite. Et ce qui est fou, c'est que c'était extrêmement dur de trouver le moindre article dans la plupart des médias britanniques sur ce sujet, pourtant essentiel pour l'avenir du pays. Tout était focalisé sur Lineker. Et je trouve que ça dit aussi beaucoup de notre rapport à l'événement, de ce qui fait la priorité aujourd'hui, l'actualité versus le long terme. Donc je trouve que c'est aussi un cas type de tout cela.
Le cocktail était formidable pour les médias, puisque tu avais à la fois une actualité médiatique, les médias adorent parler d'eux-mêmes, tu avais une question qui intéresse beaucoup les citoyens, il faut le dire, celle de l'immigration, qui inquiète, qui intéresse, et puis bien sûr, tu l'as rappelé, le football, qui, en Angleterre, au Royaume-Uni, est un élément beaucoup plus structurant de la société, un peu comme en Italie ou comme en Espagne, ce qui n'est pas le cas en France. La France n'est pas, de ce point de vue-là, un pays de football, même si on a une des meilleures sélections nationales du monde et même si le poids économique du football augmente, mais ce n'est pas du tout le même poids dans le débat social. Donc là, tu avais vraiment... C'est un cas d'école et bien sûr, c'est au détriment d'autres sujets, mais la raison médiatique a ses raisons que le cœur ignore, pourrait-on dire. Jérémy, c'est le moment d'évoquer justement nos coups de cœur. Toi, tu voulais à la fois être littéraire, mais aussi parler de création locale, puisque tu vas faire un hommage à des chroniques parues dans ton journal, La Montagne.
Alors, à Noël, un de mes deux oncles, Jacques, auvergnat, comme moi, est grand supporter de l'ASM, et donc que j'embrasse, ainsi que ma tante Odile.
ASM, rugby, hein, pardon, mais voilà, parce qu'il y a aussi l'AS Monaco en foot, mais ce n'est pas la même chose. Voilà.
Il n'y a qu'une ASM, c'est l'AS Montferrand. Mon oncle et ma tante m'ont offert un recueil de chroniques publié dans La Montagne par Alexandre Vialat entre 1952 et 1961. Alors, La Montagne, tu le sais Romain, c'est le grand quotidien local en Auvergne, mais plus largement dans le Massif central. Et Alexandre Vialat, qui est né dans un petit village de Haute-Loire en 1901, a longtemps été vu au mieux comme un journaliste assez doué, mais on ne le reconnaissait pas vraiment pour ses talents d'écrivain. Or, c'est d'abord quelqu'un qui avait été un immense traducteur parce que c'est lui qui avait introduit Kafka en France, en traduisant notamment Le procès en 33, Le château en 38, mais aussi des nouvelles qui composent par exemple La métamorphose ou La colonie pénitentiaire. Il avait aussi traduit Thomas Mann, Nietzsche, bref, pas mal d'écrivains allemands. Et en 1928, il avait écrit son premier roman, Battling le ténébreux, qui était un très beau roman sur l'amitié d'adolescents et qui se projette dans l'âge adulte, qui rêve. Alors à l'époque, leur grand rêve, c'était l'Indochine. Et c'était à la fois un hymne à l'amitié, mais aussi sur ce que c'est que vieillir, ce que c'est que devenir adulte. Thème qui était revenu dans son roman Les fruits du Congo en 1951, qui avait eu un petit succès d'estime à l'époque. Mais comme le disait dans une très belle formule Vialat lui-même, au final, il avait été notoirement méconnu de son vivant. Et il avait connu très peu de succès commercial. Il avait au final publié que 3 romans. Et donc, il avait vécu notamment de ses chroniques publiées dans La Montagne entre 1952 jusqu'à sa mort en 1971, près de 1000 chroniques. Et ce que l'on retrouve dans ces chroniques, c'est d'abord un style magnifique, un style très acéré. Ça fait penser un peu à la littérature très rapide d'un Paul Morand. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que Vialat était assez admiré de cette génération, de cette école littéraire, si on peut l'appeler ainsi, que tu sais que j'aime beaucoup, celle des Hussards, et donc notamment des écrivains comme Antoine Blondin, Roger Nimier ou le très grand Michel Déon, avaient beaucoup, beaucoup d'admiration pour Alexandre Vialat. Alors, dans les chroniques de Vialat, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois de l'humour, souvent de l'humour assez noir, mais quand même beaucoup de mélancolie, une érudition incroyable, et puis des lignes parfois assez sombres. Et c'est quelqu'un qui, et je vais citer juste quelques passages très, très différents, mais qui rappellent un peu son, et donnent une image un peu de son style. C'est quelqu'un, d'abord, qui avait été très marqué par la défaite de 1940. Il faisait partie de cette génération qui avait très, très mal vécu la défaite française, l'effondrement de la France. Il avait écrit cette ligne, enfin, c'est quelques lignes que je trouve à la fois très dures, mais aussi quelque part très belle sur la France. Il écrivait, je le cite, « La France n'était plus qu'un souvenir, une trace d'or au fond de la mémoire, le pas d'un pigeon dans la neige, le chiffre qu'un enfant dessine sur une vitre dans la buée pour se donner des songes, et au travers, on voit l'hiver, les arbres nus, le soleil pâle. » Alors, c'était aussi quelqu'un qui, dans ses chroniques, on vient de parler du traitement médiatique des événements. Il faisait preuve aussi de beaucoup d'ironie par rapport à la société dans laquelle il vivait et sur la manière dont à la fois les médias traitaient l'actualité de l'époque. Et comme il écrivait dans une de ses chroniques, les événements ne sont rien. Ce qui compte, c'est leur légende, la façon dont on les raconte. Nous sommes à l'époque lyrique. Tout dépendra des gouvernements, de l'intérêt qu'auront les plus forts à minimiser l'aventure ou à en faire dater la naissance de leur règne. Et puis, sur les dirigeants de son époque, il écrivait, et je trouve que quelque part, on pourrait presque l'utiliser encore aujourd'hui, cette description des dirigeants, je le cite encore via latte, on ne lui demande pas tellement, parlant du leader de son époque, on ne lui demande pas tellement d'être un homme efficace que d'apporter un style nouveau. Le franglais, la bougeotte, la dépense de prestige, la réforme ruineuse, l'agitation coûteuse, le vocabulaire impressionnant. Et puis je terminerai juste par un hommage qui est rare, mais que Vialat fit à la et accorda à la grammaire, parce que Vialat était traducteur, comme je l'ai dit au départ, et donc il avait dû se plonger dans les affres de la grammaire française. C'était quelqu'un aussi, quand tu le lis, qui avait un vocabulaire assez extraordinaire. Et là, je trouve des lignes magnifiques sur la grammaire française. Et je le cite, « J'ai traduit quelques 36 ouvrages allemands d'une littérature exigeante. J'ai donc fait l'un des rares métiers qui oblige un homme par la nécessité de trouver des équivalents, à étudier dans les dictionnaires les mots qu'il connaissait déjà, ce que nul autre n'a de raison de faire. Je sais 100 belles choses sur le genre du mot moufle, sur le pluriel de garde-pêche, sur alvéole ou sur orge germée, sur les moissons qui battent son plein ou battent leur plein, suivant qu'on interroge littré, dupiné ou grammaticus. » Et un peu plus loin, il écrit « Et pourtant, la grammaire, comment dire, c'est comme le parapluie, c'est comme les progrès de l'industrie, c'est ce qu'on appelle la civilisation. » Voilà.
Magnifique.
Mon cher Romain, je crois que toi, tu voulais nous parler d'une série que tu as beaucoup aimée, Esterno Norte, sur l'enlèvement d'Aldo Moro.
Oui, et tu parlais des aspects parfois sombres dans les chroniques de Vialat. Je crois que je vais être encore plus sombre en parlant de cette série, qui a été présentée au Festival de Cannes, ce qui est un fait assez rare pour une série. Il faut dire qu'elle est réalisée par un grand cinéaste, Marco Bellocchio. Et puis, elle a connu un gros succès lors de sa diffusion en Italie sur la RAI, il y a quelques mois, et elle arrive enfin en France grâce à Arte. Bravo Arte, c'est quand même formidable que du contenu de telle qualité soit disponible gratuitement. Alors, elle est visible depuis quelques jours sur Arte TV, puis elle sera diffusée à partir de ce soir, je dis ce soir pour nos plus fidèles auditeurs qui nous écoutent dès le mercredi, mais en tout cas à partir du mercredi 15, sur Arte, la chaîne linéaire. Et c'est une série donc très sombre, très dure, très brillante, qui revient sur un épisode majeur de la vie politique italienne des dernières décennies, un événement que Bellocchio lui-même qualifie toujours de blessure ouverte. Il s'agit de l'enlèvement, puis de l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges en 1978. Alors, quelques éléments rapides de contexte. Aldo Moro était une figure majeure de la vie politique italienne de l'après-guerre et du parti qui dirigeait le pays depuis 1947, la Démocratie Chrétienne, qui était un parti centre-droit, centre-gauche. Il avait été de nombreuses fois président du Conseil et au moment des faits, donc en 1978, il est le président du parti. Et beaucoup le considéraient comme le favori de l'élection présidentielle qui devait se dérouler quelques mois plus tard. Mais Aldo Moro était surtout, au sein de la Démocratie chrétienne, un des principaux partisans et promoteurs du compromis historique. En Italie, c'est important, c'était un accord politique de la Démocratie chrétienne avec la principale force d'opposition d'alors, le Parti communiste italien, qui était à plus de 30%. Et pour Moro, au-delà de la manœuvre politique, c'était un moyen de créer une sorte, on va dire, d'unité nationale dans un pays qui vivait alors les années de plomb. C'était une époque marquée par un fort terrorisme, à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite, avec énormément d'attentats, d'assassinats politiques, d'enlèvements. Et c'est donc dans ce contexte que le 16 mars 1978, donc il y a 45 ans, jour pour jour presque, Aldo Moro, qui se déplaçait toujours sous haute protection policière, il va être enlevé à Rome par le principal mouvement d'extrême gauche, les Brigades Rosse et les Brigades Rouges. Et donc la série de Bellocchio raconte en 6 épisodes, donc c'est assez court, cet enlèvement, ainsi que les 55 jours qui vont suivre, c'est-à-dire ceux de la séquestration, qui vont se conclure, hein, pardon pour le spoil, mais bon, c'est quand même assez connu, par l'exécution d'Aldo Moro, dont le corps sera retrouvé dans le coffre d'une Renault 4, Via Caetani, à Rome, à mi-chemin, c'est symbolique, entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste. Et quand on aime la politique et l'histoire, cette série est passionnante, parce que elle raconte ses 55 jours sous le regard d'Aldo Moro, bien sûr, mais aussi à travers ceux du ministre de l'Intérieur de l'époque, le bipolaire Cossiga, qui d'ailleurs quelques années plus tard va être aussi président de la République, et ceux du pape, Paul VI, grand ami de Moro, qui lui-même va décéder quelques mois plus tard, et d'ailleurs il est brillamment interprété par un acteur qu'on aime beaucoup, Tony Servillo, qui est l'acteur fétiche de Sorrentino. Et puis on voit aussi cette histoire sous les yeux, enfin, avec les yeux du couple de terroristes des Brigades Rouges, et puis bien sûr ceux de l'épouse et veuve d'Aldo Moro. La série est très sombre parce qu'elle montre toute une classe politique incarné par la démocratie chrétienne, en pleine, il faut le dire, putréfaction morale. Et tout cela souligne combien la politique dans ces années-là avale absolument tout. Parce que c'est vraiment le calvaire d'un homme qu'on voit à l'écran. Alors, il est victime avant tout d'un totalitarisme d'extrême-gauche violent, décérébré, mais aussi d'une raison d'État, du cynisme du gouvernement d'alors, celui du fameux Giulio Andreotti. Et finalement, Aldo Moro va se retrouver abandonné de tous, à commencer des siens. Rien n'a été fondamentalement fait pour le sauver, pour négocier avec les terroristes, un peu comme si sa mort arrangeait tout le monde. Et donc, pour conclure, c'est une série qui montre le danger, la folie de la radicalisation politique de l'extrême-gauche, des gens totalement déshumanisés eux aussi, d'ailleurs montrés par un réalisateur qui lui-même vient de l'extrême-gauche. Et puis en revoyant tout ça quand même, on repense à tous ces assassins italiens d'extrême-gauche qui ont été protégés en France. Alors, le cas médiatique de Cesare Battisti, qui avait été placé par un vote du Conseil de Paris en 2004 sous la protection de la ville du Paris. Alors aujourd'hui, Battisti, il est en perpétuité en Italie, il a avoué bien sûr tous ses crimes, etc. Mais quand même, on a honte pour tous les gens qui ont voté ce type de texte et ces intellectuels qui ont protégé Battisti. Et on se demande vraiment comment ils peuvent se regarder dans un miroir politiquement. Donc, tu l'as compris, je conseille plus que vivement Esternonote, à la fois pour mieux comprendre l'histoire contemporaine de l'Italie et de l'Europe, parce qu'il y a quand même, c'était un fort mouvement européen, il y avait le même type de dérive en Allemagne et aussi, dans une moindre mesure, en France à ce moment-là, mais ceci, une leçon magistrale de politique et d'inhumanité. Donc, très belle série.
Romain, merci beaucoup pour ce très bel hommage que tu as rendu à cette série. Je n'ai vu que le premier épisode, mais je partage ton enthousiasme. Alors, c'est la fin de notre épisode, un épisode un peu plus court que d'habitude, peut-être une manière pour nous de rendre hommage à Vialat et à son art de la concision et de la rapidité. Merci mon cher Romain.
Merci Jérémy, à la semaine prochaine.